Bien. Avec votre permission, on va lancer la journée, puisque le programme est chargé. Donc, bienvenue à l'espace Mendès France. Merci à vous d'être présents. Vous savez que nous travaillons sur ces matinées ou ces journées en partenariat avec le rectorat. Donc, merci à Christian Grandseigne de nous accompagner dans ces démarches. Juste deux choses par rapport à la maison. Donc, vous êtes ici dans un centre de culture scientifique, il y a des têtes dans la salle qui nous connaissent, d'autres peut-être un peu moins. Et pour vous dire simplement qu'ici, nous développons depuis 20 ans maintenant un pôle d'histoire des sciences qui est ouvert aux sciences, alors qu'on dit dures parfois, exactes d'autres fois, et aux sciences de l'homme et de la société, les sciences inexactes pour certains. Enfin bref, voilà, donc la présence de l'histoire des sciences à l'espace Mendès France est fondamentale et essentielle. Par rapport à, y compris une explication de la place des sciences dans notre société. C'est un premier point. Donc Anne Bonnefoy, que vous connaissez, anime ça avec passion depuis longtemps. Donc ce pôle d'histoire des sciences est également au service de vous, enseignants, qui, dans vos établissements, sont amenés à mettre en scène les sciences auprès des jeunes, en collège ou en lycée. Et donc ce pôle d'histoire des sciences, nous y tenons beaucoup. Le programme qui vous a sûrement été diffusé vous montre la diversité de cette démarche, et pour nous non seulement elle est importante, mais elle est structurante sur un certain nombre de choses. Deuxième aspect, simplement vous dire deux choses de l'actualité de l'espace Mendès France, puisque vous savez certainement, les médias en disent beaucoup et peut-être même trop. Nous sommes présents au Bourget à travers l'exposition COP21 qui est ici. Et nous avons tenu à monter un outil de diffusion qui ancre ces explications au cœur des sciences, en expliquant ce qu'est la biosphère, mais également en essayant d'aller au-delà du débat de ces 15 dernières années où le climato-scepticisme a été très important, et maintenant on entre vers de nouvelles orientations. Nous sommes présents dans 37 pays différents, traduits en japonais, en coréen, en arabe, en espagnol, en portugais. Alors, un petit clin d'œil, parce que ce matin, je crois qu'il y a un film qui remplace, je pense, agréablement l'absence de notre ami Michel Blé. Et ce film a un lien avec le Chili. Alors, sachez que demain, en présence d'un certain nombre de gouvernements, je fais une présentation avec le président du Sénat du Chili, puisque l'espace Mendès France va s'implanter au Chili. Et nous allons, c'est un clin d'œil aussi à vous, enseignants d'ici, nous allons monter 5 centres de formation des enseignants, puisque vous savez que le Chili fait 4500 km de haut en bas, 5 centres de formation des enseignants à la culture scientifique, et on a mis l'histoire des sciences au cœur de la démarche. Donc voilà, c'est le clin d'œil, puisque le gouvernement chilien... Ah ben voilà, donc on va essayer de monter une internationale chilienne. Donc moi j'y serai au mois de janvier avec Edgar Morin, Yves Coppens, Michel Brunet, puisqu'il y a un congrès sur les sciences pour le futur. Voilà, donc c'était pour vous donner quelques éléments d'actualité de la maison. Je sais que la matinée est chargée. Christian, je te passe la parole pour présenter le programme. Salut à tes collègues et merci à tous.
Merci Didier. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir d'organiser des choses avec l'espace Mendès France. C'est vrai qu'on est toujours formidablement accueillis. En plus, on a toujours du côté du rectorat, donc Christian Grandseigne, hein, je suis chargé de mission culture scientifique et technique au rectorat. La convention de partenariat, je pense que ce n'est pas un vain mot, puisqu'a priori, on mène ensemble de grands nombres d'opérations à l'échelle de l'Académie de Poitiers, de la région, encore actuelle avec ses frontières. Et donc, cette journée-là, qui est sous l'angle un petit peu de la formation, fait partie aussi du programme de formation des enseignants, hein, le programme académique de formation. Alors, pour les stagiaires qui sont dans la salle, j'ai un petit point de détail à rappeler. C'est que nous avons besoin de vous repérer et de bien signifier que vous étiez présents. Donc, j'ai posé sur les sièges de devant les listes d'hébergement où je vous demanderai d'apposer votre signature pour le service formation. Voilà. Donc, pour reprendre assez rapidement, effectivement, petite modification de programme. On vous a distribué le programme, donc vous avez au moins le nom des intervenants. Il a fallu réagir assez vite pour pallier l'absence de Michel Blais, que nous regrettons vraiment, qui s'excuse. Et bon, je pense qu'il aurait préféré être parmi nous aussi. Il reviendra certainement. Ça, j'en suis quasiment persuadé. Mais voilà, pour aujourd'hui. Et donc, je vais remercier M. Glicos, en tout cas, d'avoir accepté de déplacer sa conférence en tout début de matinée.
Pour
donc,
l'instant, je me porte bien.
Bon, effectivement. Restons rationnels. On va espérer que la journée ne porte pas malheur, quand même.
Je voulais remercier M. Glicos aussi, parce que je lui ai demandé un exercice. Hein, quand on a discuté ensemble sur le thème, on est toujours très content de vous accueillir parce que vous faites partie des intervenants en arrêt science les plus intéressants. Vous avez travaillé aussi avec Jean-Marc Lévy-Leblond, qu'on connaît bien, et on sait à quel point cette notion d'histoire des sciences, d'histoire des arts, elle peut être galvaudée. Et je sais que ça va être encore et toujours passionnant de vous écouter. Je vous remercie vraiment pour l'exercice. Je sais que vous êtes anxieux, mais je suis vraiment, j'attends avec impatience de voir ce que vous nous proposez par rapport au titre de votre conférence, la lumière en art et science, moyen de connaissance et métaphore. C'est déjà un très beau titre, mais M. Glicos est écrivain, donc vous nous faites aussi des beaux titres. Vous êtes philosophe, maître de conférence au laboratoire SPH Sciences, Philosophie, Humanité à l'Université de Bordeaux. Donc vous venez, ça fait la troisième fois que vous venez chez nous, et c'est vraiment très, très gentil de votre part. Je vous remercie beaucoup, M. Glicos.
Alors, deux petites remarques. La première, c'est que je suis maître de conférence pour 12 jours encore. Voilà, je suis à la retraite le 16 décembre. Comment ?
Comme ça, vous serez disponible.
Oui, on peut le voir comme ça. Et puis, je voulais également vous dire que Monsieur Moreau a fait allusion aux sciences exactes et aux sciences inexactes. Il se trouve que j'ai organisé deux colloques la semaine dernière et la semaine d'avant à Bordeaux, et il y avait un scientifique qui, à propos des sciences exactes, les appelait les sciences inhumaines. Voilà. Et quant à Jean-Marc Lévy-Leblond, auquel vous faisiez allusion, je l'avais invité à venir faire une conférence dans un colloque où le thème, c'était langage, vérité, exactitude, parce qu'il se trouve que j'anime un séminaire à l'université sur ce thème-là, qui est un séminaire pluridisciplinaire avec des gens de toutes les disciplines, y compris des gens qui sont en art plastique et jusqu'aux mathématiques, en passant par l'économie, etc. Et on avait demandé à Jean-Marc Lévy-Leblond de venir faire une conférence, et il avait dit que bien que les sciences dures, de la matière, enfin tout ce que vous voulez, ça, on les appelle les sciences exactes, elles sont tout sauf exactes, bien entendu. Voilà. Et d'ailleurs, il nous avait fait une démonstration nous disant, par exemple, qu'il était absolument impossible de mesurer avec exactitude une table. Tout dépendait de l'unité de mesure que l'on prenait. Et si on prenait une unité de mesure extrêmement fine, eh bien, il était impossible de savoir combien la table mesurait. Voilà. Donc, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour vous parler de ce séminaire. Donc, je vais ouvrir le PowerPoint. Voilà. Et donc, vous m'entendez, ça va?
C'est
bon. Bon. Alors, lorsque Anne Bonnefoy m'a demandé d'intervenir, au début j'avais dit non, parce que je ne suis pas un spécialiste de cette question-là. Même si effectivement c'est toujours intéressant, c'est toujours un défi d'essayer de traiter un sujet qui est à la limite de vos compétences, parce que, bon, c'est stimulant intellectuellement. Alors, j'avais, dans la précipitation, parce qu'Anne Bonnefoy m'avait demandé dans la précipitation un titre, j'avais donné ce titre qu'elle trouve beau, mais qui m'a beaucoup encombré, qui m'a beaucoup posé problème. Donc, du coup, je l'ai barré. Voilà. Je l'ai barré, j'en ai trouvé un autre. Et cet autre titre, c'était « La lumière dans la peinture, représentation et métaphore ». Et puis finalement, au fur et à mesure que je travaillais, eh bien, je me suis aperçu que ça n'allait pas non plus. Donc, j'ai décidé que j'allais vous parler de lumière, de peinture, etc. Mais que ce serait pas une bonne idée d'y mettre vraiment un titre. Alors, ce n'est pas très grave, on va s'y retrouver quand même, je pense. Hein. Mais je préférais ne pas m'enfermer dans un titre, parce que le propos que je vais vous tenir est un propos qui n'est pas à ce point structuré, je dirais, pour qu'il mérite un titre. mais c'est bien la première fois que ça m'arrive. Alors, la première remarque que je voudrais faire, c'est que parler de la lumière dans la peinture, c'est un problème parce qu'il n'y a pas de lumière dans la peinture. Alors évidemment, on pourrait considérer que le débat est clos avant même d'avoir commencé. Hein, et on pourrait peut-être tout de suite faire la pause café. Mais on pourrait croire que c'est une fantaisie. En réalité, Diderot, dans l'encyclopédie, disait déjà cela. À l'article « Lumière dans la peinture », il dit « Par ce terme, l'on n'entend point en peinture la lumière en elle-même, mais l'imitation de ses effets représentés dans un tableau. » Donc, j'étais couvert, Diderot l'avait dit avant moi. D'ailleurs, je ne suis pas scientifique, Anne Bonnefoy l'a dit, mais on peut donner une petite explication qui justifie d'ailleurs cette idée. C'est que la lumière, c'est un phénomène physique dans lequel il y a un transport d'énergie sans transport de matière. Et à partir du moment où il n'y a pas de transport de matière, puisque finalement les photons, vous savez, un photon, ce n'est pas un grain de sable, un photon, ça peut passer par deux fentes en même temps, c'est de l'énergie. Donc, ça peut aussi justifier ce que je disais juste avant. Alors, comme vous le savez, on est dans les ondes électromagnétiques, et finalement, la lumière, elle n'est visible que par son interaction avec la matière, et en particulier, vous savez que le spectre lumineux qui est visible pour nous, c'est le spectre qui est entre 300 nanomètres et 700 nanomètres, c'est-à-dire entre le violet et le rouge, et qu'au-delà, on est dans l'infrarouge et dans les micro-ondes, etc., et on n'est plus dans le visible, et en deçà, on est aussi dans l'invisible, puisqu'on est dans l'ultraviolet, les rayons X ou les rayons gamma. Donc, on ne va pas s'éterniser sur la définition scientifique de la lumière. C'est assez compliqué, d'ailleurs. Hein. Et si vous allez sur... pour ceux qui ne sont pas scientifiques, si vous allez sur Internet, vous verrez, il y a plusieurs définitions. Il y a la définition, bien sûr, de la physique, mais il y a aussi la définition des sciences cognitives, il y a la définition de la psychologie, etc. Et tout ça est très compliqué, puisque vous savez que même au niveau de la lumière, nous avons une perception par la peau, et la peau qui renvoie des informations à l'œil, etc. Donc tout ça est assez compliqué. Mais c'est pas l'objet de... Alors, à la fin du 18e et début du 19e, Goethe s'est beaucoup intéressé à la lumière et à la couleur. Et il disait, pour lui, la couleur est sombre parce qu'elle est un obscurcissement de la lumière. Voilà la définition qu'il donnait de la lumière. Il disait aussi qu'elle est un éclaircissement du noir. C'est-à-dire qu'à la fois, elle obscurcit la lumière et en même temps, elle éclaircit le noir. Alors de là, dit Goethe, naissent les couleurs primaires. Par exemple, le jaune, qui est tout proche de la lumière. On a l'habitude de dire que le jaune est une couleur chaude. Hein. Et puis le bleu, qui est tout proche de l'ombre. On a l'habitude de dire que le bleu est une couleur froide. Mais dans la réalité, un des bibliographes de Goethe, Rudolf Steiner, dit en réalité, la physique moderne, la physique, elle commence là où s'arrête Goethe, ou Goethe s'arrête là où commence la physique. Hein. Donc en fait, la définition de Goethe n'est pas du tout une définition physique. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, et notamment au XIXe siècle, il y a eu beaucoup d'interactions, j'en parlerai pas parce qu'on ne peut pas parler de tout. Je voulais juste vous dire aussi une petite parenthèse, je voulais vous dire au début, ça va être un petit peu rapide ce que je vais vous dire, mais si ça vous intéresse, mon PowerPoint est à votre disposition entièrement. Je vous le céderai sans souci. Hein. Donc, c'est un polycope numérique. Hein. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au XIXe siècle, par exemple, il y a eu des relations entre des gens comme Seurat et Chevreul, par exemple. Chevreul, qui était un théoricien de la lumière, un chimiste, aussi théoricien de la couleur, etc., et qui a eu des interactions avec Seurat, et surtout plus avec Seurat, avec Signac même qu'avec Seurat. Donc, c'est pas inintéressant de voir que les théoriciens non scientifiques de la lumière, ou les artistes, ont essayé de se rapprocher des scientifiques assez rapidement. Alors pourtant, on parle quand même de la lumière dans la peinture. Alors de quoi parle-t-on ? Je voudrais faire un petit peu de philosophie, si vous m'y autorisez, parce que je pense qu'on ne comprend, on ne comprend pas très très bien le sens, la signification iconographique de la lumière dans la peinture si on n'a pas en tête les fondements philosophiques, les soubassements philosophiques qui ont présidé au développement de la pensée occidentale, Quand je dis de la pensée occidentale, c'est sous toutes ses formes, y compris sous la forme de la peinture. Alors, pourquoi j'ai mis Socrate ? Eh bien, justement parce que c'est dans l'allégorie de la caverne de Platon que, je pense, débute une vraie réflexion sur la lumière. En effet, je suppose que vous avez tous plus ou moins le souvenir de ce texte, mais on va rapidement rappeler. Cette image, d'ailleurs, représente assez bien la chose. Vous avez des esclaves, dit Platon, ou plutôt Socrate, puisque c'est Socrate qui parle, même si c'est Platon qui a écrit le texte. Socrate dit à son disciple Glaucon, écoute, je vais te parler maintenant de l'ignorance et de la connaissance, et retenez bien ces mots, parce que c'est important, vous allez comprendre pourquoi. En matière d'ignorance et de connaissance, pour que tu comprennes comment ça se passe, je vais te donner une image. Je vais te représente-toi, dit-il, des esclaves dans une caverne, et ces esclaves sont là depuis la plus tendre enfance, ils sont attachés, ils ne sont jamais sortis de la caverne, et ils sont contre un mur, et derrière ce mur passent des individus qui tiennent des objets à la main, et ces objets sont éclairés par une flamme, par un feu, et là encore c'est important, tous les détails sont importants dans ce texte, qui est un texte culte et je dirais fondateur de la philosophie contemporaine, et cette flamme projette sur le mur, seul accessible à ses esclaves, les ombres. Et Socrate dit à Glaucon, ne penses-tu pas que ces esclaves vont penser eux-mêmes que la réalité, ce sont les ombres. Donc les ombres sont la réalité et pas les objets eux-mêmes. Alors Glaucon lui dit, ah oui, Socrate, bien sûr, je pense comme toi. Il dit, maintenant imagine que nous détachions l'un d'entre eux et que nous le sortions de sa position initiale et que nous l'amenions derrière. Et on lui montre qu'en réalité, ce n'est pas ça, la vérité. La vérité, ce sont les objets. Il va être un peu surpris. Et il dit, maintenant, imagine, et là, voilà le texte, et si on l'arrachait de là, par la force, dis-je, en le faisant monter par la pente rocailleuse, parce que la connaissance, c'est une affaire abrupte, c'est compliqué, il faut monter, on se fait mal, dit Socrate, par la pente rocailleuse et raide, et si on ne lâchait pas avant de l'avoir tiré dehors jusqu'à la lumière du soleil, n'en souffrirait-il pas et ne s'indignerait-il pas d'être traîné de la sorte ? Combien d'élèves ne s'indignent-ils pas qu'on les traîne vers la connaissance et vers la lumière ? Et lorsqu'il arriverait à la lumière, les yeux inondés de l'éclat du jour serait-il capable de voir ne fût-ce qu'une seule des choses qu'à présent on lui disait être vraie. C'est-à-dire qu'on lui avait montré les vrais objets, mais maintenant qu'il est à la lumière, à la vraie lumière, et tous les mots comptent et sont importants, eh bien, il n'y voit plus. Donc il y a quand même un paradoxe dans cette histoire, et une contradiction, un problème au sens socratique du terme, c'est que le soleil, que ce que Platon appelle le souverain bien, et dit Platon, le soleil, il est à la fois ce qui éclaire les objets, le monde, la nature, et donc rend visible, mais en même temps, si on le regarde, c'est ce qui rend aveugle. Donc ce qui rend visible ne peut pas être regardé, ne peut pas être vu. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que pourquoi ce texte est fondateur ? Il est fondateur parce qu'il associe deux choses, c'est la lumière et la vérité. C'est-à-dire que toute l'histoire de la pensée occidentale, c'est la vérité, elle est du côté de la lumière, elle n'est pas du côté de la nuit. Alors ça ne peut nous paraître évident. Hein ? D'ailleurs, on dit, j'y vois pas très clair, il faudrait un peu clarifier ta pensée, etc. Toutes nos expressions sont là pour traduire cette chose. Mais, et donc un homme sensé, dit Socrate, se rappellera que les yeux peuvent être troublés de deux manières et par deux causes opposées, le passage de la lumière à l'obscurité et celui de l'obscurité à la lumière, c'est-à-dire de l'ignorance à la connaissance. Et en effet, si vous continuez le texte sur la caverne, que dit Platon ? Et ça, c'est très très intéressant pour vous enseignants et pour nous tous enseignants, c'est que Socrate dit à Glaucon, et si maintenant on demande à l'esclave de descendre, qui est, ça y est, il a vu la vérité, il connaît tout, etc. On lui demande de descendre pour aller expliquer à ses petits copains. Eh bien, il risque, et c'est bien ce qu'il y a écrit en jaune ici, il va trébucher parce qu'il aura tellement été dans la lumière qu'il ne verra plus bien dans le noir. Et ses camarades, ils vont lui dire, attends, mais comment peux-tu prétendre nous dire la vérité, toi qui n'es même plus capable aujourd'hui de marcher correctement dans l'endroit où tu es né, où tu as toujours vécu. Et ça pose le problème, enfin je fais juste une petite parenthèse, ça pose tout le problème de l'enseignement. Comment pouvez-vous prétendre, moi je vois par exemple avec les étudiants, mais on peut le voir avec les lycéens, peut-être que les lycéens se disent de temps en temps, mais comment ces enseignants peuvent-ils prétendre nous enseigner une vérité, eux qui ne connaissent même pas ce que nous connaissons, c'est-à-dire tous les jeux, tout ce qu'on fait avec l'informatique, etc., notre univers à nous. Hein. Ils en viennent de cet univers, mais ils sont allés à l'école, ils sont devenus des universitaires, ils sont devenus des enseignants, et maintenant, quand on leur parle de quelque chose, ils ne savent même pas ce que c'est que le héros de telle série. Donc, comment peuvent-ils prétendre la vérité? Vous voyez que ce texte, quand on le lit, quand on sait le lire, il est d'une modernité permanente. Alors, pourquoi une référence philosophique à propos de la peinture? Alors, si j'ai fait poser la question à Léonard de Vinci, c'est parce qu'en fait, il a la réponse, Léonard de Vinci. En fait, c'est une fausse question. La réponse, c'est ça. La pittura è cosa mentale, c'est-à-dire la peinture, c'est une chose mentale. La peinture, ça n'est pas simplement faire des gribouillis avec une main. La peinture, c'est plein de pensées. Et d'ailleurs, Anaxagore, il y a très longtemps, le philosophe Anaxagore disait « L'homme est l'animal le plus intelligent parce qu'il possède une main. » Effectivement, la main ne peut faire des choses belles que si elle est pleine d'intelligence et elle est pleine de pensées. Et cette idée-là, en fait, cette idée, elle est reprise par Todorov lorsqu'il dit à propos de Goya, je vous conseille la lecture de ce très beau texte de Todorov sur Goya, à l'ombre des lumières, justement. Et quand il dit lumière, je l'ai mis avec un L majuscule, parce qu'il s'agit bien des lumières du XVIIIe siècle, le siècle des lumières. Et il dit, la peinture n'a jamais été simple jeu, pur divertissement, élément décoratif arbitraire. L'image, dit-il, est une pensée, non moins que celle qui s'exprime par des mots. Elle est toujours réflexion sur le monde et les hommes. Et il conclut en disant, qu'il le sache ou non, un grand artiste est un penseur de première importance. Donc, les artistes sont des penseurs, sont des philosophes. Mais moi, je pense que ce qui fait probablement la grande différence entre un grand artiste et un artiste qui est moins grand, c'est probablement que le grand, il est philosophe. Et qu'il a une pensée, comme dit Léonard de Vinci, de sa peinture. Alors, à propos de Goya, puisque c'est Goya dont il est question, Goya, en effet, vous le connaissez, il a peint des tas de choses, et notamment cette œuvre que je trouve remarquable. Vous ne la voyez pas? Excusez-moi. Ça y est, tout le monde voit? Donc, Goya a fait plusieurs séries de cette gravure qui s'appelle « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Et là, c'est très intéressant parce que ce que dit Todorov, c'est que Goya, effectivement, est un des philosophes majeurs du siècle des Lumières. En ce sens que, et un tableau comme celui-là le montre, le siècle des Lumières, c'est le siècle de la raison, le siècle de la rationalité, contre l'obscurantisme du Moyen-Âge. Et justement, ce que nous dit Goya dans ce tableau, c'est que dès que la raison, la rationalité s'endort, alors reviennent les monstres du Moyen-Âge, reviennent les sources de l'obscurantisme, et ce n'est pas un hasard, je vous ferai remarquer, que les animaux qui volent derrière sont des chauves-souris, c'est-à-dire des animaux cavernicoles. Et là, on est encore dans la référence à la caverne de Platon. Ensuite, je reviens à 30 secondes, donc, mais je l'ai déjà dit, donc, le soleil qui nous éclaire, qui rend visible les objets et l'essence des choses, est aussi ce qui nous aveugle quand on le regarde en face. D'ailleurs, Descartes lui-même dira, il vous est facile à entendre que la lumière trop forte doit offenser les yeux. Oui, donc, tout le monde est d'accord. Et c'est une idée qui va comme ça. Ce qui nous amène a posé une série d'oppositions inspirées justement de la tradition philosophique grecque, à savoir l'opposition entre la lumière et l'ombre, le clair et l'obscur, le jour et la nuit, le bien et le mal, le vrai et le faux, la connaissance et l'ignorance, l'exactitude et l'inexactitude, etc., etc. On pourrait dire aussi la justice et l'injustice. Et je vous fais remarquer, parce que je vous ai mis le bien, on aurait pu mettre aussi le bon en face du mal, et le lien qu'il y a, par exemple, entre le vrai et le bien n'est pas forcément évident quand on n'a pas fait de la philosophie ou quand on ne connaît pas bien l'histoire des religions. Mais quand vous dites « bon Dieu », la expression « bon Dieu », alors vous le dites maintenant la plupart du temps sous la forme d'un juron, mais autrefois, « oh bon Dieu », mais autrefois, les gens disaient le bon Dieu. Hein. Mais ça veut dire quoi le bon Dieu? Ça veut dire le vrai Dieu. Car pour la religion catholique, il n'y avait qu'un Dieu, un seul, le vrai, et d'ailleurs Beltramini, qui deviendra le pape jésuite, qui participera finalement à la condamnation de Galilée, dira à Galilée, mais le Dieu des catholiques, c'est le vrai Dieu, c'est le bon, c'est celui qui est bon. Parce que pour Platon, on est dans du néoplatonisme, pour Platon, le bien, le vrai, c'est la même chose. Et d'ailleurs, la vérité qui passe par le soleil, Platon l'appelle le souverain bien. Donc, je tenais à vous faire cette précision. Donc, depuis Platon, le clair est privilégié par rapport à l'obscur, parce que l'obscur est du domaine de l'inintelligible. On n'y voit pas clair dans ce que tu racontes, etc. Voilà, ton discours est sombre, etc., est confus, etc. Mais nous sommes en Occident, parce qu'en Extrême-Orient, c'est tout à fait l'inverse. En tout cas, ce n'est pas tout à fait la même chose. À savoir que Pour les orientaux, l'ombre n'est pas forcément le signe de la confusion et du mystère. Ça peut être aussi le signe de la vérité. Et chez les Japonais, par exemple, eh bien, la couleur du deuil, ce n'est pas forcément le noir, ça peut être aussi le blanc. Et il y a un très beau texte de Tanizaki, qui est extrait d'un livre magnifique qui s'appelle « L'éloge de l'ombre, qui date de 1933, et qui dit « Je crois que le beau n'est pas une substance en soi, mais rien qu'un dessin d'ombre, qu'un jeu de clair-obscur produit par la juxtaposition des substances diverses. De même qu'une pierre phosphorescente qui, placée dans l'obscurité, émet un rayonnement, elle perd, exposée au plein jour, toute sa fascination de joyaux précieux. De même, le beau perd son existence si l'on supprime les effets d'ombre. » C'est-à-dire qu'au fond, pour Tanizaki, eh bien, l'ombre a autant d'importance dans la beauté et dans la vérité que la clarté et la lumière. Alors, à partir de maintenant, je vous propose, après avoir fait cette longue introduction, je vous propose de parler de quatre il y en a peut-être une quatrième, ça sera la surprise du chef, représentation de la lumière dans la peinture occidentale. Alors, d'abord, la lumière divine. Ensuite, la lumière naturelle ou profane, et enfin, les sources artificielles de la lumière. Alors, la lumière divine, d'abord. Chez les Égyptiens, vous savez qu'un des dieux essentiels des Égyptiens, c'est Amon-Ré, c'est Ra, c'est le dieu soleil. Et là, ici, par exemple, vous avez Aton et Ra dans la barque solaire. Et juste en dessous, vous avez un bas-relief qui représente Akhenaton, Néfertiti et deux de leurs filles, qui sont en train d'admirer le dieu solaire, l'Uréus, qui est le cobra féminin chez les Égyptiens. Et on voit que s'échappent des rayons solaires terminés par des mains, d'ailleurs. Alors, justement, retenez aussi cette idée que le rayon solaire est terminé par des mains, parce que vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai un tableau où on trouve la même chose. Alors, la lumière divine, on la trouve aussi chez les Gaulois, puisque Bélénos était un dieu solaire très, très important. Et les Romains, d'ailleurs, l'identifiaient à Apollon. Et c'est intéressant parce que Bélénos, ça vient d'un mot celtique, Bel, qui a donné probablement en indo-européen Gel, qui veut dire brillant, resplendissant, etc. Et probablement que Bellissima, par exemple, vient de cela. Donc pour les Gaulois aussi, c'était important. Chez les Incas, évidemment aussi. Alors chez les Incas, c'est vraiment le dieu le plus important, le dieu soleil. On lui faisait des tas de sacrifices. Et d'ailleurs, l'empereur s'appelait le Sapa Inca, hein, et qu'il était fils du soleil. La lumière divine, on la retrouve aussi chez les bouddhistes, mais d'une autre manière, puisque vous savez que Bouddha, qui était un jeune prince très riche, etc., qui vivait dans un palais complètement enfermé, et là encore c'est intéressant, parce que ce palais où il était enfermé, c'était un peu comme une espèce de caverne à laquelle il n'avait pas le droit de sortir, d'où il n'avait pas le droit de sortir, et puis un jour il sort, et il découvre dehors la pauvreté, les gens en haillons qui meurent de faim, etc., et là tout d'un coup, on l'appelle l'illuminé, il s'éveille, hein, il se réveille, hein, et tout simplement parce qu'il a vu la lumière. Donc, chez les bouddhistes, l'éveillé, l'illuminé, c'est celui qui, à un moment donné, grâce à la lumière du jour, a vu la réalité du monde qui l'entoure. Et puis, bien entendu, on ne peut pas éviter Louis XIV, qui se prenait évidemment pour le soleil, et qui, du coup, d'ailleurs, se considérait comme roi de droit divin, c'est le fameux droit divin, par opposition au droit naturel et au droit social plus tard. Alors, cette idée du soleil, de la lumière, pardon, divine, on la retrouve évidemment dans toute l'iconographie du Moyen-Âge, et en particulier, Dieu est le centre des préoccupations, c'est lui qui est représenté. Alors, il est représenté, non, il n'est pas éclairé, mais il est la source de lumière. Hein. Alors, la religion fait à la lumière une place déterminante, j'ai écrit, hein, elle est signe et symbole d'un bien suprême. Voilà. Et là, on retrouve le souverain bien de Platon. Là, vous avez deux icônes byzantines. Donc, vous savez que l'église chrétienne, hein, c'est l'église d'Orient et l'église d'Occident. Donc, dans l'église byzantine d'Orient, on a cette lumière. Alors, cette lumière, vous la remarquez, elle n'est pas du tout une lumière naturelle. Elle n'a aucune source. Hein. Elle s'impose de fait. Dieu est là et il est clair. Et alors, on peut aussi considérer que le halo qui est autour des têtes est aussi un halo de lumière. Mais au fond, c'est quelque chose qui est donné de toute éternité et donc qui n'a pas de source véritable. Voilà une annonciation de Fra Angelico qui se trouve au couvent San Marco à Florence. Et ce tableau est intéressant parce qu'il date de 1450. On est vraiment à la naissance de la perspective. On n'est pas encore dans l'utilisation de la perspective comme moyen de représenter de manière laïque l'infini. Et regardez le détail, on est vraiment dans un monde surnaturel, puisque Adam et Ève sont dans le jardin des délices, ils s'apprêtent d'ailleurs à le fuir. Et regardez la lumière divine, comme tout à l'heure pour Ra, eh bien, on a la main de Dieu, hein, c'est la main de Dieu. Cette idée d'ailleurs d'une main quasi invisible qui envoie la lumière, n'est pas sans rappeler d'ailleurs la théorie d'Adam Smith de la main invisible, c'est-à-dire qu'il y a une main invisible qui domine le monde et la société et qui finalement fait que nous ne sommes pas maîtres, sur le plan notamment économique et social, nous ne sommes pas maîtres de tous les phénomènes. Donc la main invisible, de mon point de vue, d'Adam Smith à la fin du XVIIIe, est une laïcisation de la pensée divine, de la pensée religieuse. Alors voilà aussi un tableau remarquable qui est l'Assomption du Titien qui se trouve au Frari à Venise. Et ce tableau est un très très bel exemple aussi de la manière dont on représente la lumière au Moyen-Âge. On voit bien que Dieu qui est en haut est en train de faire tomber cette lumière sur la Vierge qui est en train de monter, qui éclaire la Vierge en haut. Mais remarquez, je suis désolé, la reproduction n'est pas très bonne et puis la projection mériterait peut-être qu'on éteigne un peu ici, mais enfin bon, c'est pas très grave. Peut-être que ce serait peut-être. Peut-être que ce serait plus. Bon, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, franchement. Et vous remarquez que les personnages en bas, qui sont tout simplement les apôtres, qui voient fuir vers le haut la Vierge, eh bien, eux sont dans le sombre, sont dans le noir. Hein, il reste dans la caverne terrienne, hein, dans le. Voilà. C'est un petit peu plus précis. Voilà. Vous connaissez évidemment tous le jugement dernier de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Alors, regardez la date. Là, on est en 1516. Là, on est en 1537. On est dans la même période. Et voyez que, là encore, on représente Dieu dans la dans un halo de lumière. Et en bas, c'est la terre et c'est les enfers. Et donc, on est dans l'ombre, on est dans la nuit. Et ce qui est intéressant à remarquer, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a le Christ, évidemment, puisque Dieu est descendu sur terre pour sauver le monde et l'humanité. Mais devant lui, il y a des chandeliers. Les chandeliers, c'est-à-dire que, sous-entendu, dans le monde d'en bas, on a de temps en temps besoin d'une lumière artificielle parce qu'on est, on est privé de la lumière divine et donc on est obligé de faire une lumière artificielle. Ce qui me fait d'ailleurs remarquer une chose, c'est que, vous le savez sûrement, mais en ce moment, quand vous vous promenez dans les rues de Poitiers, il y a des lumières partout, il y a des sapins éclairés, etc. Et on peut se demander pourquoi, finalement, tout d'un coup, on met de la lumière partout à cette époque de l'année. En réalité, c'est parce qu'autrefois, nos ancêtres, au moment du solstice d'hiver, c'est-à-dire au 24 décembre, étaient très, très inquiets parce que c'était le jour le plus court, la nuit la plus longue. Et évidemment, ils se demandaient si ce jour qui raccourcissait ne finirait pas par raccourcir complètement au point de ne jamais revenir. Et donc, en fait, on mettait des lumières partout, en l'occurrence, c'était sûrement des bougies, des feux, etc., pour dire à Dieu, mais voilà, faire revenir la lumière. C'est pour ça que nous... Donc, c'est quelque chose de tout à fait païen. Donc, vous pouvez dire à vos petits élèves qui s'en inquiéteraient que c'est vraiment très, très païen, que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Cette image, je vais revenir dessus, mais je voulais la montrer. C'est le frontispice de l'encyclopédie de Diderot. Et vous remarquerez qu'il est construit, cette gravure est construite exactement de la même manière que l'Assomption du Titien. C'est là aussi, on a une laïcisation de la... Mais vous savez, la laïcisation, liberté, égalité, fraternité, que Obama a dit avec un si bel accent l'autre jour, c'est en fait la laïcisation de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le chiffre 3 est un chiffre sacré depuis la plus grande antiquité et continue à en être. D'ailleurs, pendant très très longtemps, c'est mouru maintenant, mais on jouait au tiercé. C'était le tiercé. On cherchait le tiercé magique qui allait nous faire gagner de l'argent. Alors je reviens un instant. Ce frontispice, en fait, c'est un frontispice sous... Voilà ce qu'il est dit. Sous un temple d'architecture ionique, sanctuaire de... Donc, vous voyez, on est un temple d'architecture ionique. Donc, on revient à l'Antiquité, à Platon. On voit la vérité enveloppée d'un voile et rayonnante d'une lumière qui écarte les nuages et les disperse. À droite, la raison et la philosophie s'occupent l'une à lever, l'autre à arracher le voile de la vérité. À ses pieds, vous voyez comment ils écrivaient les pieds, d'ailleurs, à cette époque-là, la théologie agenouillée reçoit la lumière d'en haut, etc., etc. Donc, et quand vous regardez la construction de ce tableau, de ce frontispice, par rapport à ces deux autres tableaux, vous vous rendez compte, c'est strictement la même. Et il est évident que l'auteur de cette gravure avait connaissance des œuvres de ses prédécesseurs. Là, on est au XIXe siècle. J'ai mis ces deux images parce que elles sont intéressantes. D'abord, la vérité, c'est une femme, ce qui est quand même assez troublant, compte tenu du machisme ambiant de ces époques. La vérité, c'est féminin. Et vous remarquez que c'est une lumière qui vient d'en haut et qui est portée très haut. Et dans le cas du tableau de Lefèvre, elle arrive de la nuit, elle émerge de la nuit. Et dans le cas du tableau de Débat-Pensant, elle sort d'un puits. Et vous remarquerez qu'il y a deux bonhommes qui l'empêchent de sortir, la vérité du puits. Et ce qui est intéressant, c'est que le puits, il est en dessous, c'est encore la caverne de Platon. Nous y sommes encore. Et les copains, ils ne veulent pas qu'elle sorte la vérité. La vérité n'est pas toujours bonne à dire, on dit. Voilà. D'ailleurs, il y a quand même quelque chose qui est une véritable mythologie aujourd'hui contemporaine. C'est le culte de la transparence. On nous parle tout le temps de transparence. Combien de fois Sarkozy a dit « moi, je serai transparent, transparent ». Mais la transparence, c'est vouloir dire toute la vérité. Or, faut-il dire toujours la vérité? Faut-il toujours que tout soit à la grande lumière? Pas sûr. La vie, elle est faite d'ombre, de secrets. Et Jacques Lacan disait, je, Je dis toute la vérité, mais pas toute, parce que si je disais toute la vérité, ça ne serait plus la vérité. Et d'ailleurs, toute cette transparence et toute cette lumière nous conduit à une très grande opacité. Vous le savez bien. Alors, à la Renaissance, et notamment en Italie, la lumière cesse d'être purement divine. C'est un moment clé, un moment où un des grands spécialistes de la Renaissance, qui s'appelle Clark, qui est un Anglais, a écrit un livre qui s'appelle « Art, science et... » Je ne sais plus quel est le troisième titre, le troisième mot, « À la Renaissance, italienne ». Et il dit à un moment donné dans son livre une chose intéressante. Il dit « On a donné plein de définitions de la Renaissance. » Il dit « Si je devais, moi, en donner une et en retenir une, pour moi, la Renaissance, c'est la laïcisation de la pensée. » C'est-à-dire, c'est le moment où la pensée s'affranchit de la religion, de la théologie, et ose parler du monde qui l'entoure, sans faire de référence, et notamment la perspective, dont j'ai eu l'occasion de parler il y a 2 ans ici, ou 3 ans, je ne sais plus, la perspective, c'est le moment où les peintres italiens, et en particulier à la Renaissance italienne, en Toscane et à Florence, ce qui n'est pas un hasard parce que Florence était à l'époque une république, eh bien, c'est la première fois que les peintres osent représenter l'infini par la géométrie et non plus par la divinité. Un des peintres majeurs de cette époque, c'est Piero della Francesca, représenté ici par un de ses amis, Santi di Tito. Et quand on regarde de plus près, eh bien, on s'aperçoit que Piero della Francesca s'est fait peindre avec à côté de lui les éléments d'Euclide et le traité d'Archimède. Sous-entendu, de la même manière que Léonard de Vinci disait « la peinture est chose mentale », Piero della Francesca dit « je suis peintre, mais mes sources d'inspiration, c'est la science. Je suis un scientifique, je suis un philosophe. » Alors, un tableau culte et qui a été beaucoup étudié, c'est la flagellation du Christ de Piero della Francesca. Ce tableau, il y a un film qui existe sur lui, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui s'appelle « Le rêve de la diagonale », où on explique en long et en large la construction géométrique de ce tableau. Rien n'est laissé au hasard. Je vais vous passer un petit extrait, j'espère que ça va marcher. Je voudrais vous passer un petit extrait très court, de 4-5 minutes, où le film aborde la lumière dans ce tableau. Alors, pour ce faire, je vais faire comme ça. Et je vais aller à ordinateur. Voilà. Alors, avant, il faut absolument que je remette le son que j'avais coupé. Voilà. Et non, c'est pas ça. On va pas faire comme ça. On va s'y prendre autrement. Et on va faire comme ça. Voilà. Ou alors il faut faire ouvrir peut-être, tout simplement. Non, c'est bon. Ah ben non, il est revenu au début. Je pensais que je l'avais calé pour qu'il ne soit pas au début, mais ça va prendre 3 secondes pour le remettre au bon endroit. D'ailleurs, je pense que j'ai fait une bêtise parce que ouais, j'aurais dû m'y prendre autrement, mais c'est pas grave. Alors voilà, on va aller à 38.
Piero superpose un curieux dispositif de lumière. Le soleil est assez haut, mais pas encore au zénith. Il éclaire de gauche à droite. Le sud est donc à gauche, le nord à droite. La rue d'Allée et le prétoire sont exactement orientés est-ouest, puisque l'ombre de l'entablement est parallèle à la bordure de la loggia. L'ouest est en face du spectateur. À l'arrière, la couleur plus vive du pavement montre que le bâtiment s'arrête et qu'il y a entre lui et le palais du fond une avenue ou une place située à peu près dans l'axe du soleil. Le décalage de la lumière solaire par rapport au plan du tableau a une fonction scénographique précise. il permet à Pierrot d'éclairer la colonne de gauche, l'entablement et le palais qui est au fond. Si les rayons du soleil étaient parallèles au plan du tableau, toutes ces surfaces seraient bien plus sombres et la composition moins équilibrée. Cet éclairage a une réalité historique et géographique. Le soleil est assez haut car nous sommes au début du printemps dans l'hémisphère nord. La date peut même être précisée. Selon la tradition chrétienne, la Passion du Christ a lieu le 25 mars. Le soleil n'est pas encore au zénith car la scène se passe dans les heures qui précèdent le milieu du jour. Puisque le soleil éclaire les parties des bâtiments qui font face aux spectateurs, l'intérieur de la loggia devrait paraître plus sombre. Or, Pilate est éclairé de face et les marches de son estrade reçoivent la lumière de la droite, c'est-à-dire du nord. Cette lumière pourrait provenir de la réflexion des rayons solaires sur un bâtiment situé à droite hors du champ de vision. Mais dans ce cas, elle éclairait aussi une partie de la rue. Le dessus des pieds d'un des bourreaux est éclairé en même temps que le dessous du bras de l'idole. La lumière vient donc d'en haut pour le premier et d'en bas pour le second. Dans l'enfilade de colonnes, la deuxième colonne est dans l'ombre, mais la troisième est en pleine lumière. La quatrième est à nouveau dans l'ombre. La lumière provient donc d'une zone située entre la deuxième et la troisième colonne. Et en effet, le caisson central du plafond est vivement éclairé, tandis que les deux autres le sont moins. Les travées projettent des ombres nettes qui sont autant d'indices géométriques permettant de localiser la source de lumière. Elle est située plus près de la deuxième colonne que de la troisième, un peu au-dessus de la main du bourreau. C'est une lumière ponctuelle, car les ombres sont nettes. C'est une lumière directionnelle, et le peintre a marqué sa limite au pied de la colonnade. La source de lumière agit donc comme un projecteur moderne de théâtre ou de cinéma muni d'un réflecteur. Bien sûr, il n'existe pas à l'époque un dispositif aussi puissant ni précis. Mais Pierrot peut l'avoir imaginé à partir de maquettes éclairées par des chandelles munies de réflecteurs ou encore en s'inspirant des écrits antiques sur l'optique. Cette source construite de la façon la plus rationnelle est là pour figurer une lumière irrationnelle, mystique, la lumière de Dieu qui éclaire la scène. Mais il y a encore une troisième lumière dans le tableau, celle qui éclaire l'escalier. L'escalier est un des instruments de la Passion du Christ, une sainte relique. Il pourrait donc être lui aussi éclairé par la lumière divine qui, cette fois, semble tomber d'en haut. Mais cet éclairage abrupt peut aussi avoir une autre explication. Au-dessus du prétoire, il pourrait y avoir une terrasse plate sur laquelle débouche l'escalier et que borde une architecture à galeries et grandes baies ouvertes au plein soleil.
Voilà. Donc, s'il y avait une... Je ne sais pas s'il y aurait une meilleure manière d'illustrer la phrase de Léonard de Vinci que la peinture est une chose mentale. Piero da Francesca était architecte. Et on parlait d'ailleurs à l'époque, enfin pas à l'époque, mais les historiens d'art ont parlé à propos de cette époque d'une peinture savante. Donc je reviens à mon diaporama. Et vous avez remarqué qu'on a plusieurs lumières, des lumières naturelles, artificielles, etc., qui tout d'un coup viennent en compétition avec la lumière divine. Et c'est le moment où aussi vont apparaître un certain nombre de philosophes, comme Descartes, comme Spinoza, comme John Locke en Angleterre, etc. Et ces gens-là, ou Leibniz en Allemagne, et tous ces gens-là, finalement, vont affirmer l'importance du sujet, et c'est le début de l'affirmation du sujet pensant. Et quand Descartes dit « je pense, donc je suis », ça veut dire quoi ? Ça veut dire, même si un dieu trompeur employer toute son industrie à me tromper pour me dire que tout ce que je vois ici n'existe pas, y compris que moi-même je n'existe pas, il dit, il y a une chose qu'il ne peut pas faire, Dieu, c'est que je pense, chaque fois que je pense qu'il me trompe, je suis et j'existe. Et cela est vrai, dit-il, autant de fois que je le prononce. Donc, je pense, donc je suis. Ce qui veut dire que quand même, à cette époque-là, le sujet pensant affronte même la volonté divine de la tromper. Et justement, c'est l'époque où, regardez, Descartes, on est en 1641, et bien Vermeer, par exemple, on est en 1668, il conjugue à la fois l'importance du sujet individuel et en même temps l'importance de la science qui est en train de naître, et notamment, là, c'est un astronome. Et je rappelle d'ailleurs que, enfin, je l'ai mis sur, sur la petite diapo, c'est que Vermeer ne peint pas, contrairement... Les commanditaires de Vermeer ne sont pas l'Église, ce qui était quand même assez déterminant pour les sujets qu'on peignait. Vermeer ne peint que des sujets profanes. Et en plus, des sujets profanes, ce n'est même pas des rois ou des aristocrates, c'est des gens du peuple ou des scientifiques. Donc on voit bien là que la peinture, elle se met au service d'une société qui est en train de voir le jour. Voir le jour, c'est le cas de le dire. Et vous remarquerez aussi que dans ces tableaux de Vermeer, mais dans beaucoup de tableaux, notamment des Flamands, la lumière vient de gauche et elle vient de la fenêtre. Et là, on est vraiment dans une lumière naturelle et non pas une lumière divine. Et ça, c'est très important. Cette idée, d'ailleurs, de la lumière qui vient en haut à gauche, c'est important parce que ça conditionne tout notre regard sur les images. Si on avait le temps, je vous expliquerai, en microscopie électronique, par exemple, si on vous sort une image de microscopie électronique, si on ne vous dit pas où est le haut et où est le bas, vous pouvez prendre du relief pour des creux et des creux pour du relief, tout simplement parce que, inconsciemment, quand vous regardez une image et que vous ne connaissez pas les codes de cette image, vous mettez le soleil en haut et à gauche. Et pour deux raisons d'ailleurs, des raisons religieuses, mais aussi des raisons pratiques, c'est que comme nous écrivons de la main droite, eh bien, nous mettons toujours la source de lumière ici, parce que si on la mettait là, eh bien, on écrirait dans notre ombre. Donc voilà. Alors, il y a aussi la théorie du clair-obscur, et là encore, le clair-obscur, les peintres du clair-obscur, ce sont des philosophes. Alors, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « Le clair-obscur de la conscience », et qui est donc une approche sur l'union de l'âme et du corps chez Descartes, de Daniel Salvatore Schiffer. Alors, je vous fais un aveu, je ne l'ai pas lu, mais je suis allé voir un petit peu de quoi ça causait. Et cet auteur explique que toute la fin de l'œuvre de Descartes, eh bien, Descartes qui, jusque-là, était le philosophe du dualisme cartésien, c'est-à-dire l'âme, le corps, la matière, l'esprit, etc. Eh bien, à la fin de sa vie, après les méditations métaphysiques, Descartes commence à être un peu le philosophe du clair-obscur, c'est-à-dire qu'il commence à penser que finalement, les relations entre l'âme... C'est très vrai d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu le traité des passions de l'âme, mais dans les passions de l'âme, le texte montre bien quand même que les liens entre le corps et l'âme ne sont pas du tout comme il en parlait au début dans le discours de la méthode, par exemple. Et le clair-obscur, c'est le début de d'une pensée qui doute. Hein. C'est l'expression picturale du doute. Hein. Et voilà ce que dit Descartes, mais comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement et d'user de tant de circonspection en toute chose. Donc la circonspection, c'est le clair-obscur. Hein. Que si je n'avançais que fort peu, je me garderai bien au moins de tomber. Donc, j'avance peu, j'y vais à tâtons, je doute. Et ce que dit cet auteur, et là je suis assez d'accord avec lui, c'est que probablement, à la fin de l'œuvre de Descartes, son doute n'est plus un doute méthodique pour affirmer quelque chose, ça commence à devenir un doute d'un vrai sceptique, de quelqu'un qui commence à se poser vraiment des questions sur la vérité du monde. Le philosophe, donc, use de la raison pour y voir clair ou de la lumière pour raisonner. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que ce tableau de Rembrandt, qui est l'incarnation, enfin le symbole du clair-obscur, et qu'on appelle le philosophe en méditation, à l'origine n'avait pas ce titre-là. Et c'est a posteriori qu'on a donné ce nom à ce tableau pour représenter le philosophe qui est près de la lumière, mais qui est en même temps dans la pénombre, avec toute la mythologie de la caverne de Platon, etc. Alors qu'en réalité, c'est plutôt ce tableau représenterait plutôt deux personnages qui attendent leur fille, etc. Mais on a totalement oublié la raison de ce tableau pour fixer et figer définitivement qu'il s'agirait d'un philosophe en méditation, parce qu'il y a, la représentation de la caverne, il y a la lumière, il y a l'ombre, etc., et ce clair-obscur qui représente le doute, la réflexion. Alors, un des grands peintres du clair-obscur, évidemment, c'est Caravage, et pour chez lui, c'est même devenu systématique, et le monde terrestre est plongé dans l'obscurité, tandis que l'intrusion divine se signale par la lumière de l'action. Ce procédé permet d'augmenter la tension dramatique, etc. Et celui d'en haut, le Saint Jérôme écrivant, est intéressant parce que, vous allez voir, mais avant de vous montrer d'autres œuvres, je voudrais vous citer cette phrase à laquelle je suis très sensible et qui dit « Le mal semble saisissable, mais c'est dans la mesure où le bien en est la clé. Si l'intensité lumineuse du bien ne donnait sa noirceur à la nuit du mal, le mal n'aurait plus son attrait. » Donc, le bien, mais le bien finalement, c'est le souverain bien. On renvoie encore là au soleil, etc. Et la lumière du bien, c'est elle qui donne toute sa réalité au mal. Et là, on est en plein dans une philosophie du clair-obscur. Une explication, en tout cas, de ce qu'est le clair-obscur. Le bien ne s'explique que par le mal, et le mal ne s'explique que par le bien. Il ne peut pas y avoir que du bien. Ne nous inquiétons pas qu'il y ait du mal, parce qu'il y avait, s'il n'y avait que du bien, on ne serait pas capable même de se rendre compte que c'est du bien. La représentation, alors maintenant je voudrais vous parler de la représentation des moyens de faire de la lumière, la bougie, mais vous allez voir qu'on va rester proche de ce que je viens de dire, il y a la bougie, la lampe à huile, l'électricité, et puisque la lumière n'est pas dans la peinture, les artistes vont l'introduire sous le mode de la représentation. Alors évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est Georges de la Tour qui met quasiment des bougies dans toutes ses peintures. Hein. Et j'ai choisi ce tableau parce que vous remarquerez que là, il y en a deux bougies. Il y a la bougie et le reflet de la bougie. Or, vous savez que Marie-Madeleine, c'est à la fois la pécheresse et la pénitente. Hein. Elle est là. Et donc, les deux bougies, puisqu'elle regarde dans le miroir, et le miroir, c'est la réflexion. C'est-à-dire, elle réfléchit, mais vous savez, comme disait Jean Cocteau, voyant une vieille femme en train de se maquiller dans un miroir, il disait « Les miroirs devraient réfléchir avant de nous renvoyer notre image. » Et eh bien, c'est tout à fait ça. Il y a une espèce de réflexion. Le mot miroir, le mot réflexion, a un double sens. Et là, la bougie, la double bougie, c'est à la fois la dualité exprimée par la réflexion. Comme disait Socrate, la pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Et là, on est dans la réflexion, et on est aussi dans la dualité du personnage de Marie-Madeleine. Mais on est aussi dans une troisième chose, c'est que la lumière de la bougie est aussi un symbole de vanité, de la vanité en peinture. Et vous remarquerez qu'il y a un crâne sur les genoux de Marie-Madeleine, car le crâne, c'est le symbole le plus patent de la vanité, bien entendu. Mais la lumière peut être aussi le symbole de la vanité. Pourquoi ? Parce que la lumière, elle commence, et le soleil, quand il se lève, eh bien, chaque jour, il se couche, et au jour succède toujours la nuit. Et ça, c'est évidemment le symbole de la vie qui passe. Nous sommes mortels, hein, et on dit quelquefois au soir de sa vie, hein, pour montrer que, effectivement, nous sommes dans la mortalité et dans la finitude. Alors, la flamme de la bougie, donc symbole iconographique de la vanité. Je voudrais vous montrer trois tableaux en même temps. Un de Georges de la Tour, un du Caravage et un de Trophime Bigot, qui est moins connu, mais qui est un peintre. Allez sur Internet et regardez les Trophime Bigot. C'était quand même un sacré peintre. Et vous remarquez que dans les trois cas, on a une bougie, enfin, en tout cas, une source lumineuse, et on a un crâne. Et dans le cas de De la Tour, carrément, le crâne, vient la mort, vient éteindre, masquer la source de lumière. C'est pas un hasard d'ailleurs si j'ai mis Delatour à côté d'un Caravage, parce que Delatour était un grand admirateur du Caravage, très inspiré. Et lorsqu'il s'est marié et qu'il est allé vivre en Bourgogne, il a été à la cour d'un certain Henri II qui était un grand admirateur du Caravage aussi. Donc Caravage, j'ai mis ce tableau de Caravage parce que pour moi il incarne la phrase de Bataille. La lumière, le bien éclaire le mal. Hein, voilà. Là, on voit que Judith est en train de trancher la gorge d'Holoferne et au même moment, cet acte du mal ne peut prendre son sens que parce qu'il est éclairé par une certaine lumière. Hein. Alors ensuite, on a utilisé la lampe à huile et donc on a commencé à montrer la lampe à huile dans les tableaux. Là, vous avez un tableau de Millet, d'une femme qui coud à la lampe à huile. On va aller un petit peu plus vite. Voilà un très beau tableau de Bonnard aussi, Soirée sous la lampe. Mais ça veut dire quand même qu'à un moment donné, on essaie de faire rentrer la peinture. Vous allez voir jusqu'à quel point on va la faire rentrer d'ailleurs. On essaie de rentrer la lumière dans la peinture, la source lumineuse. Comment on fait de la lumière? Donc ces tableaux sont aussi des tableaux qui veulent informer, faire connaître, faire dire quelque chose et pas seulement faire joli, comme disait tout à l'heure Todorov à propos de Goya. Magnifique tableau de Van Gogh, Les mangeurs de pommes de terre, où là aussi vous voyez que les visages trouvent. Et là aussi, c'est la lumière qui met en évidence, finalement, tout le côté sombre, obscur, le mal que peut représenter cet ensemble de visages. Le mal, je veux dire, au sens pas moral, mais au sens de la condition humaine. Alors qu'à l'inverse, ici, eh bien, ce tableau de Valoton, vous savez, Valoton, c'est un. Il faut vraiment regarder les tableaux de Valoton, c'est magnifique. Là, effectivement, on éclaire une famille bourgeoise. Et j'ai bien aimé mettre ces deux tableaux en perspective parce qu'on voit bien que la lumière peut essayer d'éclairer aussi bien les riches que mettre en évidence la pauvreté. Alors ensuite, on est passé à l'électricité. Et là, l'électricité apparaît dans beaucoup de tableaux, pas autant que ça, quand même, pas autant que ça. Et là, vous avez une œuvre de Giacomo Balla. Balla est un des grands artistes avec Marinetti et je suis en train d'oublier le ça, c'est pas grave, d'un mouvement qu'on appelle le futurisme italien, qui est un mouvement qui faisait l'éloge de la vitesse, de la technique, de la science, qui voulait même qu'on rase le Palazzo Grassi à Venise. Ça aurait été dommage pour Arnaud. C'est Arnaud, puis non, c'est Arnaud, oui, c'est Arnaud. C'est Arnaud, la fondation. Hein, c'est Pinault ? Ah, Pinault, oui, j'étais en train de confondre les deux. Pinault. Ça aurait été dommage pour lui. D'ailleurs, il y a une chose qui est très amusante, je ne sais pas si vous le savez, mais ils avaient écrit en 1907 un manifeste de leur mouvement et du futurisme, dans lequel, qui était paru dans le Figaro de l'époque, qui avait une autre tonalité politique à l'époque, et qui disait qu'il fallait tout détruire, etc., et notamment le Palazzo Grassi. Et quand ils sont, dans les années 60, lorsqu'on a fait la première rétrospective de la peinture futuriste italienne, ça a eu lieu au Palazzo Grassi. Voilà. Alors voilà un tableau aussi qui est intéressant, parce que là, Magritte est un peintre surréaliste, donc dans la mouvance de la psychanalyse, de l'onirisme. Et là, on n'est plus dans la science dure de la physique, mais on est dans la science humaine et dans la psychologie, puisque ce tableau, quand on l'analyse, on s'aperçoit qu'en fait, c'est des états de conscience, représentent des états de conscience différents, avec les deux fenêtres qui représentent deux yeux qui sont encore ouverts, alors que c'est encore la nuit, mais qui s'apprêtent à... Et puis, le réverbère au milieu, qui est... l'espèce de conscience dans l'inconscient, quoi, hein, c'est-à-dire l'état de conscience dans l'inconscient, avec le ciel en haut. Donc là, on voit bien comment Magritte joue de la lumière pour essayer de dire ce qu'est sa compréhension des théories de Freud et de l'inconscient. Voilà trois tableaux de personnages, de peintres que je ne connaissais pas d'ailleurs, un Polonais et un Tchèque, et on voit bien qu'à la fin du 19e et au début du 20e, alors là, on y va, on représente les bienfaits de l'électricité qui permet de se promener la nuit maintenant sans avoir peur. Et on voit ces femmes qui, qui s'autorisent à marcher seuls dans la nuit sans crainte, puisque la lumière les protège. Donc la lumière, c'est là une signification sociale très importante. Un des tableaux, évidemment, les plus célèbres concernant l'électricité, c'est le tableau de Dufy, qui se trouve maintenant au Musée d'art moderne de la ville de Paris, qui est un tableau immense, absolument immense, et qui représente des tas de personnages, et qui est un hommage à la fée électricité. Là, on est en 1937, on est dans une période où on croit vraiment, mais dur comme fer, au progrès de la science, au progrès de la technique, et qu'elle va régler tous les problèmes. Et au fond, la science, grâce au XIXe siècle, est en train de remplacer Dieu. C'est que la lumière, elle n'est plus divine, elle est scientifique, et grâce à la science, enfin, on va faire table rase du passé, et on va créer un monde nouveau, magnifique, etc. Et c'est dans la mouvance des futuristes italiens, des constructivistes russes, enfin, en tout cas, de certains constructivistes russes. Et je rappelle que 1937, c'est l'époque de l'exposition universelle à Paris, et on avait demandé à René Huyghe à l'époque de faire une exposition Art et Science, une des premières grandes expositions Art et Science, ce qu'il n'a pas réussi à faire, pas plus d'ailleurs que les révolutionnaires de 1789 ont réussi à rassembler l'art et la science dans un seul musée. Il y a eu des conflits et finalement ça a donné le CNAM et le Louvre. Un des tableaux évidemment qui montre la source de lumière électrique, c'est le Guernica de Picasso. Car dans ce tableau, finalement, on nous montre, bien sûr, les horreurs de la guerre, etc. Mais en même temps, on nous montre aussi, de manière assez ostentatoire, la source lumineuse et peut-être les dangers du progrès. Parce que qu'est-ce qui a bombardé ? D'où ça venait, les bombes ? Ça venait d'en haut, ça venait du ciel, ces bombes des Stuka allemands. Et cette lumière, elle est aussi le symbole du progrès, et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que les rayons lumineux font des ombres. Ce qui techniquement, n'est pas possible. Il n'y a pas d'ombre aux rayons lumineux. Donc, vous voyez, et juste à côté, on tient une lampe. C'est-à-dire que là, c'est la confrontation de ces deux choses, c'est la confrontation d'un monde qui disparaît et d'un monde qui apparaît, mais qui est peut-être un monde maléfique et difficile à vivre. Et je me suis permis de vous mettre à côté, parce que c'est à peu près à la même époque, la société IBM, qui existait dans les années 30, a proposé à Hitler de créer une succursale qui s'appelait Hollerith. Et une des affiches publicitaires, alors qu'est-ce que c'était Hollerith ? Ben, c'était tout simplement une société mécanographique. Vous voyez la carte perforée mécanographique ? Il y en a peut-être qui sont trop jeunes pour se souvenir de ça, et qui représente c'est quasiment la ville avec les fenêtres. Et en fait, il y a un œil un peu qui ressemble à cet œil de Picasso. Et cet œil, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit en haut, grâce à Hollerith, eh bien, vous aurez un œil sur tout, vous aurez un regard sur tout, c'est-à-dire personne ne pourra plus vous échapper, tout le monde sera dans la lumière et personne ne sera dans l'ombre. Et c'est grâce d'ailleurs, entre guillemets, à Hollerith, c'est-à-dire la succursale d'IBM, que Hitler et ses amis ont pu ficher tous les juifs, les homosexuels, les roms, etc. Et puis après, ça ne suffisait plus, alors on a décidé de faire œuvre avec la lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle est pour la première fois, on va dire, la lumière est dans la peinture. Enfin, elle arrive dans la peinture. C'est tout simplement quand des gens comme Dan Flavin, par exemple, utilisent le néon pour faire une œuvre d'art. Voilà. Et là, on ne représente plus la lumière, on l'utilise, et la lumière est dans la peinture. Donc j'avais dit tout à l'heure, la lumière n'est pas dans la peinture. Eh bien, on a l'impression que les artistes ont mis 20 siècles à faire rentrer réellement et physiquement la lumière dans la peinture. Voilà une autre œuvre de Dan Flavin. Mais vous allez voir qu'on va encore aller un peu plus loin. Ça, c'est Morellet, François Morellet, que vous connaissez. Tout ça, ce sont des artistes qui travaillent sur le néon. Voilà encore François Morellet. Vous connaissez peut-être Claude Lévesque, certains d'entre vous. Nous sommes heureux. Ben ça, on peut. D'ailleurs, quand on voit avec quelle police il a écrit ça, on peut se poser des questions. Ça, c'est dommage. C'est quelque chose qui bouge normalement, mais je n'ai pas réussi à garder le mouvement. Voilà. Ça, c'est pour me dire qu'il faudrait peut-être que j'arrête. Une œuvre de Michel Verjus. Alors, Verjus, c'est un artiste, c'est très simple. Il fait des installations et l'œuvre, c'est une source, c'est la source lumineuse qui crée de la lumière et qui crée l'œuvre. Alors, un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bernard Monino, qui est aussi un ami. Alors, lui, c'est les sources lumineuses qui font... Alors, évidemment, ça bouge, qui font des dessins sur le mur. Il a beaucoup travaillé avec la lumière. Et il a aussi beaucoup travaillé avec l'ombre. Et là, par exemple, pour vous expliquer, vous avez en haut une petite étagère en verre avec des petits objets. Et l'œuvre n'existe qu'à partir du moment où vous éclairez. Parce que l'œuvre, ce sont toutes les ombres de ces objets qui se projettent sur le mur. Mais dès que vous éteignez la lumière, l'œuvre n'existe plus. Donc, on voit bien que là, les artistes d'aujourd'hui travaillent vraiment avec la lumière et pas pour la représenter seulement. Alors, on peut parler des ombres, puisque j'ai rapidement... L'ombre, c'est la diminution plus ou moins importante de l'intensité lumineuse dans une zone soustraite au rayonnement direct par l'interposition d'une masse opaque. Ça, c'est la définition scientifique. Et je me suis amusé à mettre quelques textes, un d'Alberti, un de Shakespeare et un de Stefan Zweig, donc des écrivains et des artistes et des peintres qui parlent de l'ombre, de l'importance de l'ombre. Mais je vous donnerai vous aurez tous les textes. Hein. Voilà. Puisqu'on parle d'ombre, je voudrais juste vous rappeler une petite légende que vous connaissez peut-être. Vous savez que... Oh, pardon, excusez-moi. Vous savez que on raconte que l'origine du dessin, c'est la fille d'un sculpteur corinthien qui, un jour, voit partir son bien-aimé à la guerre. Elle est très triste et alors elle veut absolument garder quelque chose de lui. Et pendant qu'elle se... Elle est triste et qu'elle est éplorée avec son amant, son bien-aimé. L'ombre de son bien-aimé apparaît sur le mur. Et à ce moment-là, alors là, il y a deux versions. Soit c'est le père, soit c'est la fille qui prend un bout de charbon de bois et qui dessine le contour de l'ombre. Et comme ça est né le dessin, c'est-à-dire que d'où la représentation, puisque dans représentation, il y a présenter, c'est rendre présent quelque chose qui ne l'est plus. Alors voilà une autre version. Alors elle s'appelle Dibutade, cette jeune fille, et là voilà encore deux versions de cette légende. Pour terminer, non seulement les artistes d'aujourd'hui ont eu l'idée de faire entrer la lumière dans la peinture, mais même ils ont décidé de créer des environnements pour nous faire entrer dans la lumière. Donc là, c'est plus la lumière qui rentre dans la peinture, c'est nous qui rentrons dans la lumière et dans la peinture. C'est le cas de Sophia Dixon Dillo, qui est une jeune artiste qui expose en ce moment à Paris, d'ailleurs. Et puis voilà, encore plus net, James Turrell, en 1966. Donc là, et ce qui est très intéressant, c'est que là, vous ne savez plus, quand vous êtes là-dedans, où est le haut, où est le bas, vous êtes totalement perdu. Voilà une autre œuvre de James Turrell. Et puis, pour terminer, je voudrais vous montrer, alors, pas très longtemps, j'espère que je suis encore dans les temps, ça va ? Je vais vous montrer un tout petit bout de film qui dure quelques secondes. C'est une artiste que j'ai découvert la semaine dernière, figurez-vous, ou il y a 15 jours maintenant, dans un colloque qui avait lieu au CAPC. Cette artiste, qui s'appelle Véronique Lamar, c'est une jeune femme, elle travaille en ce moment, elle est en résidence d'artiste dans un laboratoire de mécanique de l'ENSAM de Bordeaux. Et à un moment donné, un des chercheurs lui a dit, « Bien écoute, je vais te confier une caméra à infrarouge. Et démerde-toi avec. Fais ce que tu veux avec. » Mais qu'est-ce que c'est que la caméra infrarouge ? C'est une caméra qui, justement, permet d'émettre une lumière invisible et de rendre visibles des choses. Et tout d'un coup, cette fille s'est dit, mais peut-être qu'avec ça, je pourrais... Parce que habituellement, son travail, c'était de faire des performances physiques avec son corps. Elle a fait de la danse, tout ça, donc elle travaille beaucoup avec son corps. Et donc, vous allez voir ce qu'elle a fait avec ça. Nous allons aller ici. Ça doit être celui-là. Voilà. Alors ça, c'est de la cire d'abeille. Et sa main, transmet de la chaleur à la cire d'abeille qui reste apparente. Hein. Donc, parce que, évidemment, l'infrarouge, c'est du thermique, en fait. Hein. Et donc, comme c'est du thermique, ça donne des informations thermiques. Mais vous remarquez qu'au fur et à mesure qu'elle bouge, il y a un échauffement du sang et que les taches sombres, en fait, ce sont ces veines qui vont être beaucoup plus clairement, nettement, vues de manière plus nette, pardon, dans le prochain petit extrait. Deuxième extrait. Voilà, donc pas forcément utile de prolonger, vous comprenez, on voit très très bien ces veines. Donc en fait, son idée, c'est tout d'un coup de rentrer à l'intérieur, hein, et donc la lumière est utilisée véritablement pour essayer d'aller au plus loin, hein, de ce que l'on peut connaître de soi. Regardez ces veines, on est là, on les voit très très bien. Je pensais que ça vous intéresserait de voir ça, parce que moi, ça m'avait quand même... un peu scotché quand j'ai vu ce travail. Hein, voilà. Donc, on éteint ça. Pour pouvoir terminer, on revient au diaporama. Et je me suis permis quand même de faire une petite rétroaction, puisque Röntgen, en 1895, avait finalement rien fait d'autre que ce que fait cette jeune femme aujourd'hui, c'est-à-dire d'utiliser des rayons non visibles. Là, on est dans les... on est dans les rayons X, on n'est pas dans les infrarouges, les rayons X, et vous savez qu'à l'époque, ça avait eu un très grand succès, puisque en 1895, les gens faisaient la queue sur le trottoir devant la maison de Röntgen pour repartir avec, pour un franc, ils repartaient avec la radiographie de leurs mains. Je ne pouvais pas ne pas parler un minimum de Pierre Soulages, je peux juste vous le montrer, parce que c'est un artiste à part qui travaille évidemment sur le noir et la lumière. Mais tout ça, si je vous montre Pierre Soulages, c'est parce que je voudrais juste vous citer deux textes. Le premier, c'est la Genèse. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc là, on n'a pas attendu Platon pour dire que la lumière est bonne et que les ténèbres, etc. Dieu appela la lumière jour, etc. Et voici un texte de Pierre Soulages. Le noir est antérieur à la lumière. Avant la lumière, le monde et les choses étaient dans la plus totale obscurité. Avec la lumière sont nées les couleurs. Le noir leur est antérieur. Antérieur aussi pour chacun de nous avant de naître, avant d'avoir vu le jour. Ces notions d'origine sont profondément enfouies en nous. Est-ce pour ces raisons que le noir nous atteint si puissamment? Ce qui veut dire que l'œuvre de Soulages est une véritable cosmogonie. C'est-à-dire que c'est une pensée profonde de la Genèse. Voilà. Pour ne pas conclure, on a beaucoup utilisé la lumière ces derniers temps, comme vous le savez. Et je voudrais vous citer un texte d'un monsieur qui s'appelle Froment. Je ne souviens plus son prénom. Jean-Louis. Jean-Louis Froment, qui a été le créateur du Musée d'art contemporain à Bordeaux et qui un jour a écrit, dans les années 80... a écrit ce texte, enfin c'est des extraits, hein. « Même si c'est la nuit dans le monde tel qu'il est, seules les œuvres d'art sauront lui résister. La puissance d'inscription de la pensée qu'elle représente demeure intacte. » On est dans les années 80. Rappelez-vous quand même qu'on a tué les dessinateurs de Charlie. « Dans cette nuit du monde, l'art nous regarde. Et je veux te dire encore de le regarder. Il est dans cette pénombre le retournement de notre perspective. Lui seul, dont l'inflexible exigence demeure un indicateur de sens, capable d'accroître notre force de vivre et de penser, et capable de ne pas nous faire craindre d'être humains parmi les humains. Et pour conclure, cette phrase d'un de mes compatriotes, nous venant d'un abîme obscur, nous retournons vers un abîme obscur, le petit espace de lumière entre les deux, nous l'appelons la vie. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Alain Glicos, comme toujours. Alors, qui a envie d'intervenir ou de poser des questions?
Vous avez raison. Non, Non, mais c'est des pistes de réflexion que je vous ai lancées. Hein. C'est pour faire des ponts entre un peu la science, la philosophie, la religion, la peinture. C'est des ponts. Je comprends bien que tout ça en si peu de temps, ça. Bonjour. Tout ça en si peu de temps, ça. Bon, il faut le recevoir et l'ingurgiter, mais n'hésitez pas quand même à poser des questions si vous en avez. Oui.
J'ai une petite remarque. Merci.
Petite remarque.
Comme il était question de James Turrell, il y a eu une grande exposition en 91 à Poitiers, au Confort Moderne.
C'est vrai ?
Oui.
En ce moment ?
Non, non, en 91.
Ah, j'avais compris.
Qui était heureux.
Ah, pardon.
Et donc, il y avait deux œuvres importantes. Et une dans laquelle on pénétrait, c'était l'obscurité. Et la lumière venait petit à petit dans la série des espaces divisés. Donc, au fond, on sent qu'il y a quelque chose qui est lumineux. Et on ne sait pas si c'est une surface, si c'est un espace, on ne sait pas ce que c'est. Et petit à petit, la lumière. Alors, quand on entre, on est comme dans la cave, enfin, comme si on revenait dans la caverne. Ouais, ouais. Et au bout de quelques minutes, on voit. Et on ne voit pas forcément les mêmes couleurs, parce que chacun voit différemment. Et certains mettent du temps à voir, d'autres. Et quand on a déjà vu une fois, le cerveau travaille très vite. Donc, on voit beaucoup plus vite que la deuxième fois et ensuite. Voilà.
Non, mais c'est pour ça que les artistes, ce ne sont pas que des gens qui font de la déco et du joli. Quoi. C'est des gens qui pensent. Quand on lit le travail des artistes, on s'aperçoit que. Et quand on les écoute parler de leur travail, on s'aperçoit qu'il y a toute une pensée derrière. Quoi. Oui ?
Justement, dans le même ordre. Attendez, c'est enregistré. Des choses qui se révèlent à l'œil. Je pensais à Anish Kapoor.
Ah, bien sûr.
Parce que là, c'est vraiment un bel exemple. On ne sait pas si ses œuvres sont en creux, sont. Voilà. Et je trouve que c'était bien emblématique.
Et d'ailleurs, le Anish Kapoor du Grand Palais, là, l'œuvre qu'il avait faite au Grand Palais, on était quand même assez perdu dans cet espace d'immense bulle. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Mais c'est tout à fait. Mais Claude Lévesque avait fait aussi une œuvre comme ça, où on était un peu perdu.
De toute façon, vous restez toute la journée.
Oui, oui,
bon, si vous avez envie de discuter avec Alain Glicos, n'hésitez pas. Donc, on va faire une. Merci beaucoup, en tout cas. C'était superbe, comme d'habitude. Merci. Là, Eric. Donc, la pause, Christian, donc une pause de 10 minutes, là. À quelle heure elle filme, Eric ? Donc, oui, on a 10 minutes de pause. Donc, à 10h45, on se retrouve. Enfin, vous descendrez avec nous. On va dans le planétarium. Donc, je vous conseille de mettre vos. On fermera la salle, mais je vous conseille de garder vos manteaux parce qu'il fait moins chaud ici. D'ailleurs, je vais aller chercher le mien. Il y a des livres à votre disposition. Là, vous pouvez les regarder. Bon, c'est tout. Merci.